Beurre FM, les mots piégés du débat républicain, Pierre-Henri.
Les mots piégés du débat républicain, une émission qui débusque les faux-semblants, c'est sur Beurre FM. Après être revenu sur l'origine du mot, sa balade dans l'actualité, je reçois un invité qui nous aide à y voir encore plus clair. Parce que vous le savez, il y a des mots qui fâchent, des mots du vocabulaire politique. Souvent, ils sont mal connus, employés de manière inappropriée, instrumentalisés. Ils se répètent et se buzzent en réseau, confortant posture et parti pris. Ils font débat et nous divisent. Ce sont les mots piégés du débat républicain. Aujourd'hui, c'est le mot « révisionnisme » qui est sur la sellette. Pour vérifier que le moteur de votre voiture fonctionne, vous en faites la révision. Révision, ça vient du latin « reviso ». Vie, c'est rare, c'est voir attentivement. Réviser quelque chose, c'est l'examiner à nouveau pour éventuellement le modifier. Vous pouvez demander la révision d'un procès, par exemple, si vous apportez de nouvelles preuves. Dans le cas de la célèbre affaire Dreyfus, ceux qui voulaient qu'on réexamine son dossier, qu'on en fasse la révision pour prouver son innocence, étaient appelés des révisionnistes. Oui, oui. Pendant longtemps, quand les historiens faisaient du révisionnisme historique, tout le monde comprenait qu'ils avaient trouvé de nouvelles données, archives, preuves, pour donner une nouvelle lecture de l'histoire, une autre approche. Dans les années 70, voici que certains prétendent que la Shoah n'a jamais existé et que les faits perpétrés par les nazis ne correspondaient pas aux atrocités décrites par les historiens. Mais ces pseudo-historiens qui remettaient en cause les faits, les révisaient d'une certaine manière, ne s'appuyaient sur aucune preuve. Or, nier le génocide juif, l'existence des chambres à gaz, ce n'est pas du révisionnisme historique, c'est du négationnisme, terme issu du latin negare, dire non, refuser quelque chose à quelqu'un. Le mot négationnisme a été créé par l'historien Henri Rousseau en 1987, et c'est justement pour empêcher que ceux qui niaient la réalité de l'histoire ne soient pris pour des révisionnistes historiques, une discipline scientifique pour mieux diffuser leur idée antisémite. Le négationnisme fait au départ référence à ceux qui contestent l'extermination des Juifs. Le terme est aujourd'hui utilisé pour évoquer la remise en cause ou la minimisation d'autres crimes contre l'humanité. Refuser de parler de génocide contre les Tutsis au Rwanda, mais de massacre interethnique Hutu-Tutsi, c'est du négationnisme. Négationnisme encore que de prétendre que le génocide arménien n'a pas eu lieu, que les goulags soviétiques ou les crimes de Staline n'ont pas existé, pas plus que les attentats du 11 septembre 2001. Depuis la loi Guesso de 1990, le négationnisme est un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Le révisionnisme, celui qui se propage aujourd'hui sur les plateaux TV et les réseaux sociaux, n'a plus rien de scientifique. Les révisions faites de contre-vérités, de réinformations, s'apparentent à des falsifications de l'histoire. Elles empruntent souvent les codes propres aux complotistes à des fins idéologiques. Mais pour que les outrages à la mémoire ne soient plus possibles, il faut permettre à la vérité historique de l'emporter. C'est là une mission de service public, très loin de la recherche permanente du buzz, chère aux chaînes d'opinion. Et donc, le révisionnisme, nous allons en discuter avec notre invitée, Valérie Higounet. Madame Higounet est historienne, spécialiste du négationnisme et de l'extrême droite. Elle est aussi directrice adjointe de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme. Madame Higounet co-signe le texte d'une BD sur le complotisme intitulé « Ils sont partout », publié le mois dernier aux éditions Les Arènes. Bonjour Madame Higounet.
Bonjour.
Alors, il existe une confusion entre les termes de révisionnisme et de négationnisme. Selon vous, pourquoi est-il si important de les distinguer ?
Alors, c'est fondamental hein, pour nous, les historiens, de distinguer ces deux termes pour plusieurs raisons. La première, c'est que eux-mêmes, les négationnistes, se disent révisionnistes, parce qu'ils l'emploient, j'allais dire, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'ils prétendent réviser l'histoire, et non pas la nier. Et si vous voulez, il est évident que nous, en face, nous sommes certains que leur propagande antisémite, la façon dont ils s'y prennent, est une façon de nier totalement l'histoire de l'extermination nazie. Donc ça, c'est vraiment la première chose. C'est vrai que le sens propre de l'histoire peut être de la réviser, hein. Et justement, je vois bien que nous, historiens ou scientifiques, le faisons, mais nous avons des méthodes totalement différentes et surtout, j'allais dire, des objectifs qui sont totalement en contradiction. Donc ça, c'est la première chose qui est centrale. La deuxième aussi que je voudrais préciser, c'est que c'est l'historien Henri Rousseau qui a justement proposé de les nommer négationnisme et de nommer justement leur propagande négationniste.
C'était en 1987, je crois. Oui.
Oui, tout à fait, dans un ouvrage qui est fondamental, hein, qui s'appelle « Le syndrome de Vichy de 44 à nos jours
». Alors, vous êtes directrice adjointe de Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme, mais quel lien établissez-vous entre révisionnisme, négationnisme et complotisme ?
Alors, le lien entre négationnisme et complotisme, il est central. Ça veut dire que, tout simplement, ce négationnisme repose sur le mythe du complot sioniste mondial. Ils veulent prouver, cette propagande entend prouver, la soi-disant force des Juifs depuis des millénaires, ce soi-disant complot sioniste, complot juif, qui est sans cesse réactualisé et de nouveau avec le négationnisme. Parce qu'il faut bien voir que, alors, je parle pour eux, évidemment, hein. Si les Juifs ont menti sur leur pseudo-extermination, c'est entre autres pour créer un État qui s'appelle Israël, puisque la propagande négationniste apparaît en 48, le moment de l'année de la création d'Israël, et c'est pour réaffirmer leur domination mondiale.
Mais dites-moi, le négationnisme, ce n'est pas simplement la négation de la Shoah, ça peut être aussi la négation du génocide arménien, ça peut être le fait de prétendre que les goulags soviétiques n'ont jamais existé, etc. Vous ne limitez pas le négationnisme à la question de la Shoah ?
Non, pas du tout. En fait, je parle beaucoup plus de ce négationnisme parce que, on va dire que je suis une des historiennes qui travaille essentiellement sur ce sujet, sur le négationnisme de la Shoah, mais vous avez évidemment raison de souligner qu'il y a d'autres formes de négationnisme. On parle de celui-ci-là actuellement, mais bien sûr, bien sûr.
Alors, une autre question qui se pose, qui me paraît assez fondamentale, c'est que avec Internet, les réseaux sociaux, en théorie, tout le monde a maintenant accès aux informations nécessaires pour empêcher le négationnisme de se répandre. Pourtant, c'est tout le contraire qui s'opère. Et on voit que les complotismes, les négationnismes prospèrent. Comment l'expliquez-vous et que faut-il faire, selon vous ?
Alors, comment je l'explique ? Internet apparaît à la fin des années 90 et au début des années 2000, on va dire. Il y a une explosion d'informations. Entre guillemets. Il est évident qu'il y a des documents qui vont être là et qui vont attester de l'existence de certains génocides, mais il est évident aussi que la propagande négationniste, comme d'autres, hein, la propagande complotiste, va être d'une virulence sans précédent. Et plus on va avancer à aujourd'hui, à hier, à il y a quelques minutes, et plus elle se démultiplie. Donc ça, c'est évident qu'on pourrait, c'est vrai que et en plus l'historiographie évolue. Hein, je pense à divers historiens qui, à l'aide de nouveaux documents, qui soient disponibles d'ailleurs sur le net ou au sein des archives sur papier, sont en train de continuer à travailler sur ces différentes histoires. Le problème, c'est le pendant. C'est que quand on est complotiste, quand on est propagandiste professionnel, on exploite ce moyen technologique qui est incroyable du point de vue un levier du rapidité, vitesse, entre guillemets, informationnel, qui fait qu'on répand de fausses informations et à un cercle limité, mais qui n'est plus du tout limité du fait d'Internet. Avant, moi, je voyais, quand je faisais mes recherches historiques, je me rendais dans des lieux, par exemple dans des librairies d'extrême droite, pour chercher la documentation négationniste. Aujourd'hui, j'ai qu'un clic à faire pour la trouver. Mais je crois que ça, l'exemple est assez parlant.
Bien sûr.
Donc, et on peut aussi, pourquoi pas, tomber par hasard sur des sites, sur des hommes, sur des femmes, sur des figures de proue du complotisme, et lire leur, entre guillemets, littérature, et se dire de nouveau, pourquoi pas.
Ouais. Alors, on fait quoi? Pardon sur cette vaste question, mais... D'autant plus que nous arrivons à la fin de notre entretien.
Alors très brièvement, on fait quoi? On informe. Je vois par exemple comme l'Observatoire du conspirationnisme fait, ou comme d'autres hein, associations ou structures ou personnes hein, ou presse, on informe, on déconstruit hein, le complotisme, on informe de la réalité des faits, de où la trouver, de l'intention de ces propagandistes, de la haine qui les recouvre. Et je crois qu'avec tout ça, on peut aussi faire des lois. Hein. La France aussi a fait des lois qui combattent le négationnisme. C'est compliqué de les appliquer encore plus avec cette internationalisation de l'information, hein, du net. Mais il y a plein de petites choses. Hein. Il y a la commission Brenner, par exemple, hein, qui a été constituée et qui a rendu ses conclusions. Donc on peut faire plein de choses et on essaie de les faire.
Eh bien, merci Madame Igounet de cet entretien.
C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.